Bien, prenons nos Bibles, une fois de nouveau, et regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, où nous avons cessé la dernière fois. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, et je voudrais vous parler de la nouvelle alliance dans le sang du Christ. Qu'est-ce qui a fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle? C'est le sang du Christ, c'est-à-dire sa mort à la croix. Voilà ce qui fait la différence. Comme le verset 11 débute ici en disant « Mais Christ est venu ». Voilà ce qui a fait le changement. Christ est venu, selon ce que Paul a écrit aux Galates. C'était lorsque les temps étaient accomplis, selon ce que Dieu lui-même a ordonné. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscissions l'adoption. Donc voilà cette transition que nous voyons ici entre l'ancienne alliance et la nouvelle, ou bien on peut dire l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est que Christ est venu. Et c'est écrit qu'il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Quels étaient les biens à venir qui n'existaient pas sous l'ancienne alliance? Ça, c'est une question très importante. Nous savons que tout ce qui était sous l'ancienne alliance était sous forme de symbole ou type. Ça préfigurait la réalité. C'était l'ombre des choses à venir. Mais Christ est le contenu de tout cela. Donc, les biens à venir s'agissent de la réconciliation avec Dieu. Sous l'ancienne alliance, il n'y avait pas de réconciliation. C'est pourquoi c'était nécessaire que chaque fois, ils offrent les sacrifices et les offrandes. Ça ne pouvait pas cesser. Mais maintenant que Christ est venu, voilà, alors la réconciliation avec Dieu, avec son sang, la justification, à quel point est-ce que Dieu a justifié son peuple? Ça, c'est une question très importante aussi. D'autres disent non, que depuis l'éternité, son peuple était déjà ordonné au salut, donc déjà sauvé. Non, c'est pas ce que dit la Bible. D'autres disent, c'est au moment où le pécheur croit en Christ, que là, il est justifié. Là encore, la réponse est non. La justification a été accomplie dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Voilà le fondement de l'évangile essentiel à déclarer. Et il s'agit là alors d'un de ces biens à venir accomplis par Christ qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Et on peut continuer non seulement la réconciliation, la justification, la rédemption. Il n'y avait pas de rédemption. Personne n'était en fait racheté jusqu'à ce que Christ soit venu et qu'il accomplit tout ce qui est nécessaire pour le rachat du peuple de Dieu. Donc nous voyons l'importance ici de la mort de Christ. Que Christ, c'est écrit ici, dans le verset 11, a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y avait un tabernacle qui était construit selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse, mais c'était un tabernacle provisoire. Christ est venu dans un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, il s'agit là du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Père lui a préparé un corps, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 10. Et c'est lui qui a habité parmi nous, comme Jean le dit dans Jean chapitre 1 et le verset 14. Et ce mot habité, utilisé là par l'apôtre Jean, c'est le mot tabernacle. La parole a été faite chair et elle a tabernaclé parmi nous. Donc il s'agit de ça que l'auteur ici écrit. Et que, comme dans l'Ancien Testament, c'était dans ce tabernacle que Dieu a eu ses rencontres avec son peuple à travers les sacrificateurs. Mais maintenant, c'est en Christ qui est le tabernacle de Dieu, que Dieu rencontre les pécheurs qui s'approchent de lui à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ qui est le représentant. C'est Christ qui est notre sacrifice. Et c'est Christ qui est la rédemption. Donc, c'est pourquoi c'est écrit comme souverain sacrificateur. Ici, c'est écrit verset 12. Il est entré une fois pour toutes. Voilà encore une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Tous les jours, les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu saint, mais une fois par an dans le lieu très saint. Ici, c'est écrit, il est entré une fois pour toutes. Voilà la différence que son sang a faite en ce qui concerne le salut des pécheurs, l'efficacité de sa mort. Lorsque Christ a été crucifié et il a donné sa vie, il ne restait plus rien nécessaire pour satisfaire à la loi et la justice de Dieu. Et c'était un sacrifice une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices des animaux étaient simplement une couverture. Et dans la bienveillance de Dieu, Dieu acceptait ces sacrifices en attendant. Mais lorsque Christ est venu, et c'était nécessaire qu'il vienne afin d'accomplir tout ce qui était écrit de lui, alors son sacrifice était alors la satisfaction devant Dieu, une fois pour toutes. Et c'est écrit non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Quand il s'agit là de son propre sang, c'est plus que le sang physique qui a été versé, mais son propre sang représentant sa mort. Il fallait qu'il meure, qu'il verse son sang jusqu'à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme représentant de son peuple, il devait mourir. Et c'est ce qu'il a fait, comme c'est écrit ici dans le verset 12, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est très important pour nous de lire et contempler ce qui est écrit, la manière que c'est écrit. Ça, ce n'est pas une rédemption qui a existé depuis l'éternité. C'est pas dans ce sens. Bien sûr, Dieu, dans les temps éternels, a ordonné à ce que Christ vienne, mais il fallait qu'il vienne et qu'il, notons bien le mot, obtienne, ayant obtenu une rédemption éternelle. On ne peut pas minimiser l'importance de la mort de Christ et du fait qu'il a dû accomplir tout ce qui est nécessaire pour que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs. Voilà ce qui a fait la différence et voilà comment la nouvelle alliance est fondée sur le sang de Christ, sur son sacrifice. dans Hébreux chapitre 10, les versets 11 à 14, c'est très clair. C'est écrit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, notons qu'ils ne peuvent jamais ôter les péchés, jusqu'à ce que Christ ait versé son sang à la mort, les péchés n'étaient pas ôtés. Il s'agit là des péchés des élus. Dieu traitait avec les élus dans sa bonté, sachant que Christ allait venir et payer la dette pour eux. Mais même les élus, leurs péchés n'étaient pas ôtés, tandis que Christ n'était pas encore mort. C'est ce que Paul écrivait aux Romains au sujet de l'œuvre de Christ, surtout dans Romains chapitre 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, mais notons, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne prêche pas l'accomplissement du salut à la croix, quelqu'un qui ne prêche pas que c'est à la croix que Dieu a une fois pour toutes justifié les pécheurs pour qui Christ est mort, ne prêche pas l'évangile. Ajouté à cela ou bien retranché de cela est autre que l'évangile, c'est prêcher un autre évangile. Si quelqu'un dit non, il s'agit de la mort de Christ plus l'agrément du pécheur, il faut que le pécheur agrée, donne son approbation pour que la mort de Christ soit efficace pour lui, ne connaît pas l'évangile. Notons Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné, bien sûr, prédestiné à être le sauveur, mais il fallait qu'il vienne. Christ n'avait pas de corps dans les temps éternels, il fallait qu'un corps lui soit préparé. D'ailleurs, il n'y avait pas de péché dans les temps éternels. C'est par un seul homme, sa désobéissance, que le péché est entré dans le monde, et à travers lui la mort. Ça, c'est le péché d'Adam. Donc, c'est lui que Dieu a destiné, notons, par son sang, c'est-à-dire par sa mort, à travers la croix, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Ceux qui croient, c'est parce que Christ a été fait pour eux victime propitiatoire. Le mot propitiatoire signifie satisfaction. Et c'est ce que la mort de Christ est pour ceux qui croient. Ce n'est pas leur croyance qui rend Dieu propice, non, mais ceux pour qui Dieu a été rendu propice par la mort de Christ, à la croix, par son sang. Ceux-là croient lorsque l'Esprit de Dieu révèle Christ en eux. Et c'est écrit afin de montrer sa justice parce qu'il avait, notons, laissé impunis les péchés commis auparavant. Quand c'est écrit qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant, il s'agit des péchés des élus, des péchés de ceux pour qui Christ est mort, mais c'était comme si Dieu ne rendait pas sa justice à ceux qui lui appartenaient dans l'Ancien Testament, parce que c'est écrit au temps de sa patience, voilà la bienveillance de Dieu, sa bonté, il ne pouvait pas punir ceux de l'Ancien Testament qu'il avait choisi, mais il fallait alors que Christ vienne et qu'il paye leur dette. Et c'est pourquoi c'est écrit, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent. Quel est le temps présent? C'est depuis la croix. De manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors voilà ce qui fait la différence. Donc si nous revenons ici dans Hébreux chapitre 10, et verset 10, c'est en vertu de cela, de cette volonté que nous sommes sanctifiés. La justification, la sanctification, cela veut dire d'être mis à part pour Christ et le salut, c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Rien dans cela n'est philosophique. Ça devait être accompli dans l'histoire, dans la réalité, une fois pour toutes. Et alors, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assez pour toujours à la droite de Dieu, pour toujours. Ah, quel merveilleux mot que nous lisons ici. Dans le tabernacle, sous l'ancienne alliance, il n'y avait pas de chaise dedans. Les sacrificateurs devaient être toujours debout et toujours en train d'offrir les sacrifices en attendant que Christ vienne et accomplisse tout ce qui était décrit sous type dans l'ancienne alliance. Mais versets 13 et 14 d'Hébreux 10, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Quand nous regardons autour de nous, il y en a encore beaucoup d'ennemis, mais cela ne signifie pas que Christ ne règne pas. Il règne, il est assis pour toujours à la droite de Dieu, et il règne. Il y a des ennemis, et il faut dire que même les élus sont nés dans ce monde, dans leur esprit et dans leur pensée, rebelles et ennemis de Dieu. Mais ceux-là, il faut que Christ amène à ses pieds jusqu'à ce qu'il soit devenu son marche-pied. Il y a des ennemis qui seront assujettis par le jugement de Christ, tout provient de lui, la condamnation. Mais il faut dire aussi, il y a des ennemis qui doivent être amenés à ses pieds et doivent devenir son marche-pied par sa grâce. Si aujourd'hui nous sommes agenouillés aux pieds du Christ, c'est par la grâce que cela s'est fait. Et c'est parce que Christ a payé la dette, déjà. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Ça, c'est la justification. D'être déclaré juste devant Dieu. Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits dans notre nature, mais dans notre substitut. Dieu nous regarde comme parfaits, aussi parfaits que Dieu lui-même, à cause de ce sacrifice de Christ, et c'est pour toujours qu'ils sont sanctifiés ou mis à part. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sacrificateur. Christ est le souverain sacrificateur, et comme nous avons vu la dernière fois, tous ceux qu'il a rachetés sont devenus sacrificateurs à lui, à travers sa mort. Oh, quelle œuvre de grâce que nous voyons ici. Et voilà ce qui fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Le Seigneur Jésus Christ n'est pas venu sur la terre pour se réconcilier par la sainteté de sa vie. C'est vrai, c'était nécessaire qu'il vienne et qu'il vit une vie parfaite devant le Père et qu'il accomplisse la justice dans sa vie. Mais si il avait fait cela et puis est remonté au ciel, le salut ne serait pas accompli. Il fallait non seulement qu'il soit l'agneau semblable, mais qu'il soit aussi l'agneau immolé devant Dieu. Et nous savons que le sang des taureaux et des boucs ne pouvaient pas accomplir cela, mais seulement le sang de Christ. C'est ce que nous lisons ici, dans Hébreux chapitre 9, et continuons dans le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la purité de la chair, c'est tout ce que ces activités pouvaient accomplir dans l'Ancien Testament. Ça ne pouvait pas rendre parfait devant Dieu, mais c'était pour la purification de la chair. Mais c'était une ombre de l'œuvre de Christ, décrit ici dans le verset 14, combien plus le sang de Christ, qui est par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il, quoi, votre conscience? Il y a la purification de la chair, symbolisée par les sacrifices et les lavages de l'Ancien Testament, mais maintenant, nous avons dans le sang de Christ, nous avons dans sa mort, son sang versé à la mort, maintenant une purification spirituelle de notre conscience, notons, des œuvres mortes. De quoi il s'agit ici, des œuvres mortes? Il s'agit des efforts que l'homme pouvait faire pour essayer de se réconcilier avec Dieu, mais maintenant, sachant que rien en ce qui concerne cette chair ne peut nous purifier devant Dieu, voilà, notre conscience maintenant, une fois que Christ est révélé dans notre cœur, se repose des œuvres mortes. On ne poursuit plus à nous réconcilier avec Dieu par nos efforts ou bien par ses activités. Afin, c'est écrit, que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela, voilà encore ce que nous sommes en train de voir, comment la nouvelle alliance dans le sang de Christ et l'alliance établie pour toujours maintenant devant Dieu, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc ici nous voyons que la mort de Christ était efficace pour les élus qui étaient encore sous la première alliance, mais maintenant que sa mort est intervenue pour le rachat, une fois encore, quand est-ce que la rédemption a été obtenue? Dans la mort de Christ. Ceux qui ont été appelés, bien sûr, les Abraham, les David, Isaïe, Jérémie, d'autres de l'Ancien Testament, ont été appelés. Mais notons, à quel moment est-ce qu'ils ont reçu l'héritage éternel qui leur a été promis? C'est à travers la mort de Christ. C'est pourquoi Christ a dit d'Abraham, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Quel jour est-ce qu'il a vu? La mort de Christ, le jour de sa mort. Alors, nous voyons concernant le sang de Christ et la rémission des péchés par le sang de Christ, par lequel la nouvelle alliance maintenant a été une fois pour toutes établie. Premièrement, dans Hébreux chapitre 9 et le verset 13 et 14, nous voyons l'efficacité de son sang. Parce que son sang versé a actuellement obtenu la justification, obtenu la réconciliation, obtenu la sanctification, obtenu la paix, obtenu le pardon de chacun pour qui Christ est mort. Ceux qui prêchent que Christ est mort ou ceux qui finalement terminent à l'enfer, ils ne prêchent pas l'Évangile, il ne prêche pas la mort de Christ selon les Écritures, c'est-à-dire il prêche un autre message qui n'est pas l'Évangile. Donc, l'efficacité de la mort de Christ, oh combien nous voyons ça clairement ici et dans d'autres passages, que sa mort est effectivement la justification et la satisfaction de Dieu. Et nous allons voir la prochaine fois dans les versets 15 à 17, non seulement l'efficacité de son sang, mais la nécessité de son sang. Tout cela a été nécessaire. Il y en a qui prêchent que puisque Dieu a déclaré et destiné ces choses depuis l'éternité, alors la venue du Christ ne changeait en effet rien, c'était simplement pour confirmer et affirmer ce que Dieu avait déjà décidé depuis l'éternité. Mais cette manière de philosophie, et c'est tout ce que c'est, de raisonner parmi les hommes, ça minimise l'importance ou bien la nécessité du sang de Christ. Dieu, étant juste, ne pouvait pas justifier jusqu'à ce que le sang ait été versé, le sang de Christ, jusqu'à la mort. Donc nous voyons non seulement l'efficacité de ce sang, mais aussi la nécessité que ce sang soit versé. Et il y a d'autres points qu'on pouvait appliquer au fur et à mesure que nous étudions le reste de ce chapitre. Mais ce qui est clair, c'est que nous savons, selon ce qui est écrit ici dans les versets 13 et 14, que rien de ce que l'homme faisait pour offrir les offrandes des taureaux et des boucs à l'Éternel ne pouvait ôter le péché. Dans Hébreux chapitre 10 et le verset 4, cela est répété. Car il est, notons, impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et nous pouvons dire aujourd'hui, même si des gens ne portent pas des animaux pour offrir à Dieu, et peut-être qu'ils supposent que mais néanmoins, on ne peut pas venir les mains vides, donc il nous faut apporter quelque chose. Voilà comment d'autres prêchent aujourd'hui. Pour avoir la paix avec Dieu. Et même si ce n'est autre que la bonne volonté de l'homme, voilà comment il raisonne. Dieu attend à ce que vous approchez avec votre bonne volonté. Le problème, c'est que l'homme n'a pas de bonne volonté. Notre volonté est dépravée et nous savons que personne n'allait s'approcher de Dieu. Et d'ailleurs même si c'est ça que l'homme pense apporter à Dieu, même à la place du sang des taureaux et des boucs, rien dans cela ne peut ôter les péchés. C'est très important que cela soit déclaré clairement dans Galates. Chapitre 2, l'apôtre Paul insistait là-dessus parce qu'il y avait des judaïques qui venaient derrière lui et qui disaient, oui, on peut toujours tenir dans une main Christ et Christ crucifié, mais en même temps, il faut au moins certains aspects de la loi pour compléter ce que Christ est venu faire et pour eux, c'était la circoncision. Mais qu'est-ce que Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 21? Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ceux qui insistent sur le fait que il faut venir à Christ, mais il faut aussi venir avec vos œuvres, ils rejettent la grâce de Dieu. La grâce signifie que l'œuvre est entièrement de Dieu, du début jusqu'à la fin, en Jésus-Christ. Autrement, ce n'est pas la grâce. Sans les œuvres, donc, Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car, notons, Galates 2, 21, si la justice s'obtient par la loi, et là, Ça signifie si la justice s'obtient par notre contribution à la loi, ou bien imaginant que notre obéissance à la loi, ou bien que notre soi-disant libre arbitre complète ce que la loi exige, qu'est-ce que Paul dit? Christ est donc mort en vain. Vous voyez comment ceux qui ajoutent à l'œuvre de Christ et sa mort, son sacrifice unique pour le salut, ne font que détourner et pervertissent l'évangile de la grâce de Dieu. Rien dans cela ne peut ôter le péché. Et quels que soient les sacrifices qui étaient offerts tous les jours dans l'Ancien Testament, et c'était nécessaire que ces sacrifices soient offerts parce que c'est Dieu qui les a exigés. Néanmoins, c'était simplement en attendant. Aucune goutte de sang versée d'un animal ne pouvait satisfaire à Dieu et enlever le péché de qui que ce soit. Et Dieu l'a ordonné ainsi, afin que le salut soit accompli dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, et que le salut soit établi sur cette nouvelle alliance de Dieu, et que les types ou bien les figures ne pouvaient pas sauver, mais c'était la réalité en Jésus-Christ. C'est comme quelqu'un qui a un morceau de pain, et c'est une belle image du pain, mais le pain, la photo, l'image ne peut pas nourrir celui qui a faim. Non, il faut le véritable pain. Et c'est comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre réconfort n'est pas dans les types ou bien les symboles de ce qui était représenté dans l'Ancien Testament, mais c'était dans l'œuvre de Christ. Dans 1 Jean, chapitre 1 et le verset 7, et avec cela je vais terminer pour cette semaine et cette leçon, mais dans 1 Jean, chapitre 1 et le verset 7, qu'est-ce que nous lisons? Mais nous, si nous marchons dans la lumière, qu'est-ce que c'est de marcher dans la lumière? C'est de marcher dans la révélation de Christ qui est la lumière que l'Esprit de Christ donne. Son Esprit n'est pas donné à tous. Mais si quelqu'un marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est-à-dire que Christ lui-même est cette lumière qui brille, nous sommes, notons, mutuellement en communion les uns avec les autres. Voilà ce qui, dans la nouvelle alliance, nous fortifie ensemble. Chacun qui fait partie de cette nouvelle alliance, selon la grâce éternelle de Dieu. Mais c'est le sang de Jésus, verset 7, son Fils qui nous purifie, notons, de tout péché. Quand on appelle l'évangile la bonne nouvelle, voilà la bonne nouvelle, c'est que à travers la mort de Christ, non seulement les péchés passés, mais les péchés présents, et même les péchés futurs, tout péché, ont été déjà purifiés, enlevés. Telle est l'efficacité de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, nous qui sommes nés de ce côté de la croix, lorsqu'on réfléchit, il faut dire que tous nos péchés étaient encore futurs en ce qui concerne notre expérience. Mais voilà, ce qui est net et clair, c'est que si Christ a payé la dette, lorsque un de ses élus est né dans ce monde, quoique né dans les ténèbres et ayant besoin d'avoir cette révélation de Christ dans son cœur, néanmoins, en ce qui concerne ses péchés devant Dieu, Chacun est né déjà justifié devant Dieu. Voilà ce qui distingue le message de l'Évangile de ceux qui prêchent que l'homme doit faire ceci ou cela pour avoir le pardon des péchés. Non, nous déclarons que si Christ est mort pour vous, s'il a payé votre dette, vous avez déjà le pardon du péché en Christ et c'est à l'esprit maintenant de révéler Christ dans votre cœur pour vous attirer à lui et renoncer à toute autre œuvre morte que vous poursuivez. Et voilà ce qui se passe en effet. Chacun pour qui Christ est mort, l'esprit l'attire. Oh, quelle bonne nouvelle nous avons d'aller sortir et annoncer aux pécheurs. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont élus et qui ne sont pas élus, mais Dieu sait. Seulement, je me lève et je déclare la nouvelle alliance de Dieu dans le sang de Jésus-Christ. Et je sais que ceux pour qui Christ est mort, autant que Dieu ordonne, l'Esprit ouvrira leurs oreilles et leurs yeux et tournera leur cœur à Christ pour qu'il renonce à tout autre moyen de salut et qu'il s'approche à Christ et qu'il soit agenouillé à ses pieds et qu'il soit reconnu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alors, nous allons nous arrêter là et Dieu voulant revenir pour compléter ce chapitre la prochaine fois parlant de la nécessité de la mort de Christ. Mais voilà le message pour aujourd'hui. La nouvelle alliance dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. Mais c'est pas sa mort. C'est l'œuvre de Jésus comme médiateur qui était accomplie dans sa mort. Et c'est ça qui fait notre salut, notre justification, notre réconciliation devant Dieu.